Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Pierre Dorian.
L'afterfoot intégrale Coupe du Monde, Daniel Riolo, Walid Acharchour. On a beaucoup de choses sur le barbecue de l'after parce qu'on va continuer à parler de l'Argentine. On a les compos de Norvège-Angleterre, l'avis de Walid sur les équipes africaines et une info qui va intéresser tous les tifosi, tous les fans de la Squadra Azzurra, puisqu'il y a Paolo Maldini qui débarque, alors non pas en tant que sélectionneur mais en tant que directeur technique de la Fédération Italienne de Football, avant probablement rapidement de désigner un sélectionneur. Daniel, je ne sais pas si tu peux nous éclairer sur le rôle du directeur technique en Italie.
C'est censé être la même chose que... Comment il s'appelle déjà notre DTN? Je me dis toujours son nom.
Notre DTN, c'est Hubert Fournier.
Ah, bravo. L'homme qu'on ne voit jamais, l'emploi fictif.
Voilà. Après, nous, c'est un peu particulier. Tu sais, les cadres techniques, on les recycle très facilement, donc c'est un peu toujours les mêmes. Ah, voilà.
Là, en fait, c'est celui qui va penser la nouvelle politique sportive du pays, quoi, la formation des jeunes.
C'est lui qui va choisir le sélectionneur, tu penses, ou le président?
De toute façon, ça ne peut pas se faire en désaccord avec lui. Ouais.
Bon, voilà pour l'info sur l'Italie. Juste avant les compos de Norvège-Angleterre, on termine sur l'Argentine, Daniel.
Oui, parce qu'on parlait du côté irrationnel des Argentins et des productions, finalement, qui sont les leurs depuis le début de la compète. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant cette équipe. Parce que moi, le foot pour le foot de très haut niveau, c'est... à partir des quarts de Ligue des Champions, je m'emballe et tout. Mais moi, ce qui m'a toujours plu dans le foot, au-delà de tout, c'est l'histoire qu'on raconte. Mmh. Les Argentins, en fait, et j'ai du mal à comprendre que parfois on ne comprenne pas ça, en fait, ils ne jouent pas au foot. Eux, ils font basculer la Coupe du Monde, leur façon de voir le foot. Eux, c'est... On écrit un roman au quotidien. Ça fait maintenant... Ils l'ont commencé, ils l'ont toujours écrit, leur roman. Ça a toujours été comme ça. Maradona, c'était un roman. 94, c'est un roman. Comme le comeback de Maradona. En fait, ça n'est pas que du foot. Mmh. Et ils ont commencé l'histoire Messi, nouvelle version en 2002 au Qatar. Et en plus, c'est toujours accompagné d'une chanson qui explique un peu quelle est la mission, pourquoi ils sont motivés, quel est le chemin, voilà. Et là, ils continuent d'écrire le roman, nouveau chapitre du roman. Nous allons aller chercher la quatrième étoile pour telle et telle raison, parce qu'il faut venger Maradona. Et ils sont habités par ce truc-là, avec tous ces supporters qui les suivent partout. On a raconté ce qu'ils faisaient quand ils étaient dans des villes. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, je suis passionné par cette sélection, parce que en fait, elle ne me raconte pas qu'une histoire de football.
Ça dépend des chansons, quoi.
Elle raconte une histoire de vie. Moi, je te parle des quatrièmes de là, le Muchachos de la dernière, oui. Celle-là, elle s'appelle la Quarta.
La quatrième étoile. Ouais, voilà.
Moi, je suis passionné par ça. Ils me racontent autre chose que du foot. Mais si, depuis le début de la compète, je suis désolé, un mec qui, encore à 39 ans, te laisse bouche bée.
C'est génial.
Non, mais c'est juste dingue.
Enfin, pour moi, c'est une IA.
C'est fou. C'est fou. Tu vois, alors, mais même moi, à la place des Suisses, je me casse la tête. Je me dis, mais évidemment qu'on peut leur poser des problèmes. Évidemment. Mais c'est quoi cette équipe qu'on a en face de nous? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire?
Je pense qu'il y a énormément d'équipes qui, au 2-0 après l'Égypte, ils rentrent à Buenos Aires. N'importe quelle sélection, à 2-0, c'est terminé. Et là.
Avec l'histoire nous savons gagner dans la souffrance. À chaque fois, en fait, ils ont un commentaire pour expliquer leur performance qui n'est pas un commentaire de football. C'est nous, on va gagner dans la souffrance. Est-ce que vous avez vu la réaction quand même assez dingue de Scaloni après le but d'Enzo Fernandez? Elle est folle, sa réaction. Il n'y a pas d'explosion de joie et tout. C'est en fait comme si ils ne croient pas à la propre histoire qu'ils sont en train de se raconter. Tu sais, il met les mains devant la bouche, il s'écarte, il dit, mais il se passe quoi, en fait, là? Elle est dingue, cette réaction. Voilà pourquoi
c'est bien, parce que ça chiale beaucoup, quand même, les Argentins, non?
Non, ça chiale pas trop.
Ah, ça chiale pas?
Ah, non, c'est les Brésiliens qui chialent.
Il
a la grinta.
Oui, mais ça quand même, ça pleure. Non, ça pleure pas.
Si tu viens de la finale, Daniel, la finale 2022, ils sont écrasés par l'émotion, alors que ils nous dominent,
même le Mexique domine largement. Le deuxième match après l'Arabie Saoudite.
Et quand on revient, tu as des gros plans sur le banc, ils sont tous en pleurs.
En plein match contre le Mexique sur le deuxième match. Je sais pas si tu te rappelles de cette vidéo, où à 0-0, en fait, ils vont prendre la porte.
Et derrière, c'est pour ça qu'il est plus.
Scaloni, après le Cap-Vert, il pouvait plus parler. Souviens-toi, après le Cap-Vert, il a dit non, mais je m'exprimerai pas parce que j'y arrive pas.
C'est pas si j'allais comme ça. Walid faisait allusion à Neymar, Ronaldo, qui sont tout le temps en train de chialer. Dès qu'il y a un contre-temps, ils sont là, les maillots, ils se mettent en train de
chialer. Ce qui est fort avec l'Argentine, c'est que malgré cette émotion-là, elle les galvanise.
Et en fait, cette émotion ne leur fait pas perdre leurs moyens.
Et ça leur permet de. C'est comme au tennis, quand tu casses une raquette, est-ce que ça te fait du mal ou pas? Et avec eux, c'est ça qui est
face. Il raconte une histoire qui est assez fascinante. Ouais. Effectivement, il te laisse bouche bée, même dans un match tout pourri contre le Cap-Vert et tout. Et c'est pour ça. Bon, après,
après, moi, je pense que Léo Messi magnifie tout ça. Je pense que si Léo Messi n'est pas dans cette équipe-là, c'est pas du tout la même. Même dans l'attente, je pense que ce soir, s'il y a Argentine-Suisse sans Messi, par rapport à ce qu'il raconte comme roman, je pense que c'est pas le même. Oui, tu vas pas à la bibliothèque.
Mais évidemment,
tu vas lire le livre de manière différente.
Et en fait, je vais presque te dire, si jamais le roman doit se terminer, il doit se terminer sur une série de pénaux avec Messi qui rate. En fait, bon après,
dans le drama, quoi.
Il y a une affinité culturelle avec l'Italie qui me touche évidemment, mais parce que par rapport à certains matchs complètement pourris que t'es obligé d'aller gagner dans les sueurs et les larmes, comme à la Coupe du Monde 94 où Baggio arrivait comme sauveur et tu t'en sors contre le Nigeria alors que tu dois pas t'en sortir, exactement comme les Argentins. Ils ont ce côté romanesque dans leur façon de raconter le football qui existe dans pas tous les pays. Hein. Il y a des pays qui sont beaucoup plus cartésiens, ils jouent au foot, machin, c'est comme ça, et voilà.
Donc le prochain chapitre, c'est à 3h du matin sur RMC, c'est donc Argentine-Suisse avec Jérôme Sillon. Mais nous, le prochain match qui arrive, ça va être Norvège-Angleterre. On est en direct de Miami avec Aurélien Thiersin qui a la feuille officielle de la FIFA sous les yeux. Salut Aurélien.
Salut Pierrot, ouais, salut à tous. Effectivement, bon, on a Haaland et Kane, le duel aura bien lieu et ça, il n'y a pas de surprise. Côté norvégien, c'est du classique, Nyland dans les cages, Egem Ayer en défense centrale, Møller-Wølfe à gauche, Ryerson à droite, Berg et Ødegaard dans le cœur du jeu. Le seul petit changement, c'est Andreas Skjeldrup, titulaire à gauche. D'habitude, c'était Antonio Nusa, mais le joueur de Leipzig est sur le banc des remplaçants. Il est aussi sous le coup d'un carton jaune.
Enlevez-moi ce mauvais métal norvégien, je peux pas, là, c'est trop là, non. Daniel, non,
peux pas. C'est fait, moi.
Non, Daniel Torres.
C'est la culture.
Réalisation. Bon, excuse-moi, Aurélien, continue.
À gauche. Non, t'inquiète pas, trois passes décisives quand même. Skjeldrup, donc dans la compétition, c'est l'ailier de Benfica, il est titulaire. Sorloth à droite, ça c'était d'ailleurs une autre surprise parce que bon, ailier droit, j'ai toujours pas compris, il arrive pas à accélérer, il arrive pas à centrer et il marque pas. Mais il est titulaire. Et côté Angleterre, Madueke,
Kane. Ces gens-là, des bons joueurs, faut les mettre.
Ouais, c'est vrai.
Bah, c'est ça. Ouais, mais il y en a d'autres des bons joueurs, tu vois.
Oscar Bob sur le banc, oui, qui pour moi est un meilleur joueur que
Sorloth. Sur un côté,
Sorloth, il doit jouer à la place d'Haaland ou sinon il est sur le banc.
Exactement. Bah, et de l'autre côté, donc Gordon Madueke sur les côtés, Saka sur le banc. Ça aussi, c'est peut-être une petite surprise. On va voir si physiquement il est à fond, mais normalement, oui.
C'est fou.
Ouais. Bellingham, Kane, évidemment, devant. Rice Anderson au milieu du jeu. Et Ezri Konsa, titulaire à droite, pas de Rhys James, donc on va faire John Stones, Mark Gay dans l'axe, Nico Orei à gauche et Jordan Pickford. D'ailleurs, Pickford, 18e titularisation en Coupe du Monde, il dépasse Peter Shilton, donc maintenant visage du gardien dans l'histoire de l'Angleterre, c'est Pickford.
Gros gardien sérieux quand même, Pickford. Avec l'Angleterre, je trouve.
Moi, je le trouve pas hyper rassurant dans cette Coupe du Monde.
Contre le Mexique, j'ai trouvé un très bon.
Un Mexique monstrueux, mais avant, bizarre parfois.
Oui, avant, oui, parfois un peu bizarre.
Qu'est-ce que tu comprends pas dans la titularisation de Madueke, Daniel?
C'est juste que c'est pas un bon joueur.
Oui, mais Saka, il fait pas une bonne Coupe du Monde.
Ah, ouais, mais enfin, à un moment,
Saka. Il fait trois passes-dés quand même, hein, Saka.
Il faut lui dire. Bah, bon, alors, c'est vraiment qu'il peut pas.
C'est étonnant de voir Saka sur le banc.
Il peut pas faire. Ça veut vraiment dire que Saka tient pas
sur le premier but anglais contre le Mexique, c'était lui qui était à l'origine.
De toute façon, tu vas toujours être dans l'attente de à quel moment j'arrive à prendre le ballon, faire 2 mètres et décocher une frappe lucarne. Quand ça va arriver, tout le monde va applaudir.
Ouais, il dynamite, quoi.
Mais en attendant ce moment-là, qu'est-ce qu'il perd comme ballon? C'est un QI football, franchement, proche du. Pas du 0, mais du 2, quoi. Ça va pas chercher beaucoup plus loin. Moi, c'est le type de joueur qui m'a.
La prise de décision, c'est quand même.
En plus, il fait partie de ma nouvelle théorie du joueur à bandeau, là.
C'est quoi la théorie du joueur à bandeau?
Bah, celui qui met bien les nattes, bien
coincé. Ouais, ça, c'est louche.
En fait, se soucie plus de ça que de sa performance sur le terrain. Je signale que tout ça a été éclairci par un coiffeur hier soir dans la fête. Je vous conseille le dernier quart d'heure de l'émission. Tout est maintenant.
Mais parce qu'on avait Gervinho comme super joueur à bandeau.
C'est joueur irrégulier.
On a eu une contre-expertise.
Joueur à avec 13 comme ça, c'est joueur irrégulier.
On a eu une contre-expertise ou pas? Contre-expertise d'autres coiffeurs?
Peut-être ça mérite.
On lance un appel pour d'autres coiffeurs qui sont pas d'accord avec Daniel. Parce que Daniel, on le connaît. Il aime bien, des fois, catégoriser. Prendre des mecs de son équipe.
Coiffeur de star,
d'accord. Donc on lance un appel quand même. Mon Instagram est ouvert.
Koundé est pas gêné par le bonnet qu'il avait l'autre soir?
Je sais, je t'ai trouvé un peu excessif dans ton analyse.
Mais je te dis qu'il est gêné.
En plus, Koundé, il a fait un bon match. Du coup, je l'ai critiqué, mais il a fait un bon match.
Tu sais qu'à un moment, il ajuste son bandeau quand il est en face à face.
Donc tu penses que s'il enlève le bandeau, là, c'est le meilleur latéral du monde?
Non, il est meilleur.
Et il est meilleur.
Il gagne 5%.
Wally, ton avis, Madueke, Saka.
Le joueur, là, tu le rajoutes. ça augmente un peu sa note.
Ok.
Ah, c'est ça.
Non, mais bon, je suis d'accord. Moi, je préfère bien évidemment Saka. De toute façon, on l'a bien vu sur la fin de saison avec Arsenal. Madouéguer fait partie des joueurs qui peuvent faire des différences athlétiques, mais le problème c'est que à la fin il y a très peu de stats au tableau d'affichage. Après il va peut-être nous faire mentir ce soir. C'est un mec qui fait beaucoup de courses, mais je préfère un Saka qui est beaucoup plus simple dans son jeu, mais qui est beaucoup plus intelligent et connecté au reste de l'équipe.
Okay.
Mais il doit peut-être avoir une raison physique, peut-être.
Si on regarde le 11 norvégien, on parlait de Sorloth, Oscar Bob, mais il n'a pas mis non plus Noussa. Hein.
Oui,
il a un problème Noussa ou pas, Aurélien?
Non, c'est a priori non, c'est pas ce qu'on nous a dit, mais Sreldrup, il fait des meilleures entrées que Noussa, donc c'est vraiment les deux qui jouaient lié gauche. Il a privilégié le joueur de Benfica.
Après, Sreldrup est un vrai joueur, un vrai bon joueur. Il fait à chaque fois des très bonnes entrées. Bah, contre le Brésil, il a vraiment été dangereux. Et je pense qu'il est sur un 60-30 aussi, le coach de la Norvège.
Comme tu veux dire un Doué, ouais, Doué Barcola. Ouais,
non, mais s'il rentre Noussa et Oscar Bob sur les 25 dernières minutes, ça peut faire très très mal sur les latéraux anglais qui sont pour moi quand même pas exempts de tout reproche.
Ça peut faire mal, faudrait pas que ce soit plié d'ici là.
Voilà,
c'est ça le problème.
2-0 à la 60e minute. Parce que pour moi, Sorloth sur un côté, depuis le début de la compétition, je comprends pas comment c'est possible d'insister. Ouais. Et la Norvège continue de faire des performances avec cet handicap parce qu'ils jouent à cloche-pied.
Ils ont un joueur devant qui marque.
Oui, mais ils jouent à cloche-pied d'un côté.
C'est une équipe qui est très homogène, des bons joueurs.
Parce que très sincèrement, sur Haaland, ils sortent contre le Brésil.
Et sur Haaland aussi.
Ok, évidemment. Mais enfin, non, mais le raisonnement de dire s'il manque un tel, c'est pas la même équipe.
Non, mais c'est important pour expliquer la réflexion de Walid.
Ok, bah ils sont à Haaland, ils jouent avec Sorloth devant et évidemment qu'il serait moins fort. Oui, bien sûr. La Norvège, la question c'est on est arrivé au sommet, on est arrivé au top de ce qu'on peut faire. On savait que c'était une bonne équipe, on savait que ce serait, en tout cas moi j'avais dit que ce serait une des équipes à suivre et surprise de cette Coupe du Monde. La phase de poule qu'ils font de qualif a montré que c'était une équipe très forte. Maintenant, contre les Anglais, si ce que j'appellerais quand même, je ne sais pas si exploit est le bon mot, mais en tout cas s'ils sortent les Anglais, là, ils entrent dans une autre dimension.
C'est retentissement. Oui.
Et si les Anglais, au point où ils en sont, à toujours revenir, toujours dire on a des bons joueurs, on veut enfin briser la malédiction, on est enfin un candidat à gagner quelque chose, tu te fais taper par la Norvège, bah, Tuchel, qu'on vient de pas me dire, Tuchel, il a réussi quelque chose. Tuchel, t'auras été comme les autres, t'auras fait tes choix osé, audacieux, courageux de sortir certains mecs, mais tu vas te les reprendre dans la gueule direct.
Ça sera une des questions
de
notre avant-match.
Les Anglais, la Norvège a été forte, la Norvège a Haaland, la Norvège a machin truc là. Ils ont fait des bonnes qualifs devant l'Italien. Les Anglais n'ont rien à cirer.
Alors, ça sera l'une des questions.
Par contre, la Norvège, ça va très mal se passer pour Tuchel.